Né en Belgique en 1921, le père Charles Choc arrive au Canada en 1947, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Il part alors au centre du pays, dans le Grand Nord, pour la zone de Baker Lake, proche du cercle arctique.
Baker Lake se dit en Inuktitut Kramanitwa. Cela veut dire un lac où il y a une entrée, une rivière qui vient du nord et une rivière qui vient du sud. Kramanitwa, c'est un beau nom.
Il découvre le territoire et rencontre les Esquimaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les Inuits.
J'étais jeune à ce moment-là et puis ardent. Alors j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et mon impression, c'est que c'était un pays très vaste, très beau aussi en certains moments, mais très dangereux au point de vue des tempêtes de neige. Quand on arrive, on ne sait pas la langue. Et ça, c'est un grand handicap. Alors, il faut d'abord commencer par étudier la langue, par se faire aider, par prendre des notes, etc. Et un jour ou l'autre, alors, on est capable de parler ou au moins d'avoir une courte conversation avec les Inuits pour lesquels nous avons été envoyés.
Le père Choc part régulièrement loin de la mission, entraîne nos chiens, et il partage alors la vie difficile des Esquimaux.
Une dame esquimaute m'avait fait des habits de caribou et avec ces habits-là, on ne doit craindre aucun froid. Quand même, il faut s'habituer à les porter, il faut s'habituer à vivre dans des igloos, c'est-à-dire dans des maisons de neige. Nous allions visiter des Esquimaux sur la Kazan. C'est une tribu d'Esquimaux qui vivent depuis longtemps dans ce pays désert, mais qui ont souvent à souffrir la famine. Quand les caribous sont nombreux, ils sont heureux. Quand le caribou manque, ils sont malheureux et affamés. Alors bien souvent, nos voyages consistaient à leur porter non seulement un petit peu de catéchisme ou bien de religion, mais surtout à leur porter des vivres pour qu'ils puissent sortir d'une période de famine qui les accablait depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui allait durer jusqu'au printemps. On logeait nous autres aussi dans les igloos. À Baker Lake, les igloos sont très petits parce qu'il n'y a aucun moyen de les chauffer. La seule petite lampe qu'ils avaient était faite de graisse de caribou et ça ne donne pas beaucoup de chaleur. Ça ne donne pas beaucoup de lumière et ça rend l'atmosphère un petit peu plus clémente. On restait quelques jours parmi eux. On disait la messe comme on pouvait dans l'igloo et les Inuits étaient heureux de nous voir et de parler un petit peu. On se souvient des voyages qu'on a faits avec nos guides esquimaux. On se souvient de l'accueil qu'on a reçu dans les igloos. On se souvient des messes et des enseignements religieux qu'on leur donnait. On se souvient aussi de la famine, la façon dont ils faisaient la cuisine. On trouvait là un gros baril ouvert et dans ce baril, il y avait des têtes de caribou qui mijotaient. Et voilà, c'était le dîner qu'on nous servait. Et il ne fallait pas être trop regardant pour la propreté dans ce temps-là, mais on était heureux quand même quand on avait à manger. Et quand c'était la fin, alors vraiment, les Inuits n'avaient pas beaucoup de courage ni pour nous recevoir, ni pour venir au poste de traite. Quand la faim frappait, leur principale préoccupation était d'aller à la pêche dans les lacs. Mais quand on est faible, ce n'est pas facile de percer une épaisseur de glace de 2 mètres avec un couteau à neige, ils appelaient ça. C'était un couteau, une espèce de couteau au bout d'un grand manche. Et avec cela, ils trouaient la glace.
Est-ce qu'à l'époque, ces populations avaient beaucoup de contacts avec le monde moderne ou est-ce que c'était encore très rare?
Il y avait très, très peu de contacts avec le monde moderne. Il n'y avait pas de village proprement dit. Il y avait exactement 3 ou 4 maisons. Après cela, il y a eu le gouvernement qui a pris beaucoup de choses en main. Et de petit à petit, alors, c'est devenu maintenant un gros village avec toutes les commodités modernes, avec les magasins modernes, avec les moyens de transport voitures automobiles, skidoo et autres machines modernes. On ne peut plus dire maintenant que c'est une mission isolée.
Vous semblez regretter cette évolution.
On ne peut pas la regretter, non, parce qu'il faut s'y adapter. C'était prévisible d'ailleurs avec les Blancs prospectent de plus en plus dans le Nord. Les mines de diamants, les mines d'uranium, etc. se développent et les Inuits sont invités à travailler aussi pour ces entreprises blanches. Et ils font beaucoup d'argent. Mais alors, il y a le grand danger de la boisson et le grand danger aussi des suicides pour ceux qui ne sont pas capables de choisir ou d'attraper un emploi. Alors la vie est très dure. Avant, les Inuits partageaient régulièrement ce qu'ils avaient. Actuellement, ça devient un petit peu la mentalité blanche, c'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup, ceux qui n'ont rien, n'ont rien. Et il n'y a pas de partage comme il y avait précédemment, à part, évidemment, quelques exceptions, là où l'esprit inuit, l'esprit esquimau a persévéré et est resté visible et palpable.
C'était le père Charles Choc, oblat de Marie Immaculée, qui a vécu 40 ans parmi les Inuits, dans le Grand Nord canadien.
Ha ha ha!